France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Journaliste, écrivain, réalisateur, Philippe Labraud est mort ce matin à l'âge de 88 ans. On reviendra bien entendu sur le parcours foisonnant de ce touche-à-tout qui avait consacré sa vie à sa passion des médias comme de l'écriture. Et puis autre disparition, celle de la chanteuse, danseuse et comédienne Nicole Croisy, décédée elle aussi la nuit dernière à l'âge de 88 ans. Dans le reste de l'actualité, on se demandera avec notre invité comment endiguer aujourd'hui l'augmentation des logements inoccupés en France. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est notamment la décision spectaculaire ce matin de Donald Trump de doubler les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. La première fois que l'on tombe amoureux, la première fois que l'on vous ment, la première fois qu'on fait l'amour, la première fois qu'on perd une illusion, la première fois qu'on rencontre la beauté et son contraire, et donc aussi nécessairement la première et ultime fois où l'on doit dire adieu. Philippe Labraud, l'auteur de L'étudiant étranger, s'est donc éteint ce matin à l'âge de 88 ans, tour à tour journaliste, auteur de romans, parolier, cinéaste. Cette figure du paysage médiatique laisse derrière lui Fiona Mogadam, une œuvre aussi élégante qu'éclectique.
C'est d'abord comme journaliste que Philippe Labraud se fait connaître. Il débute dans l'après-guerre à la radio, chez Europe 1 et en presse écrite, notamment à France Soir, où il est embauché à la fin des années 50 par Pierre Lazareff. Il travaille en parallèle pour l'émission télévisée 5 colonnes à la une. Alors qu'il tourne un documentaire sur un campus américain, sa carrière prend un réel tournant. C'est ce qu'il confiait à Vincent Kivi dans À Voix Nue en 2014 sur France Culture.
Et donc je suis à midi et demi sur le campus de Yale en train d'interviewer quelqu'un, quand un môme arrivant du fond du campus en hurlant « The president has been shot », on a tiré sur le président, vient interrompre mon tournage. Et là, l'instinct du journaliste de terrain reprend évidemment toutes ses forces. Je fais la route vers New York pour ensuite trouver un avion et qui m'amène à Dallas le lendemain matin très tôt. Et je vais vivre pendant 2 jours une expérience inimaginable, dans un commissariat de police envahi par 300 journalistes. Je frôle et je vois Lee Harvey Oswald. Comme je suis le seul représentant de mon journal sur place, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est un tournant de carrière.
Un temps présentateur du journal d'Antenne 2, Philippe Labraud s'illustre chez RTL, qu'il dirige durant 15 ans. L'homme de médias est aussi un homme de culture. Il a réalisé 7 longs métrages, signé des paroles de chansons pour Johnny Hallyday ou encore Serge Gainsbourg, et écrit une vingtaine de romans, dont L'étudiant étranger, prix Interallié en 1986. Un éclectisme qu'il revendiquait.
Et l'éclectique, c'est quelqu'un d'insatisfait. Je passe du roman à la chanson, de la chanson au cinéma, du cinéma au journalisme, du journalisme à la publicité, de la publicité à la radio, de la radio à quoi d'autre. Mais tout ça, c'est, encore une fois, sous le verbe de s'exprimer.
S'exprimer jusqu'à la fin, Philippe Labraud, qui a participé à la création de la chaîne C8 il y a 20 ans, y a présenté une émission hebdomadaire jusqu'au 25 février dernier, sans manquer de critiquer l'Arcom pour avoir retiré sa fréquence à la chaîne. Son dernier roman, Deux Gimlets sur la 5e avenue, est sorti il y a moins d'un an. Sa passion pour les États-Unis ne l'a jamais quitté.
Une onomatopée entêtante, échaloupée, transformée au fil du temps en chabadabada, c'est elle, Nicole Croisy, qui avait prêté sa voix à la musique devenue culte du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, jusqu'à l'abonner d'ailleurs au générique des plus grands succès du réalisateur. Décédée la nuit dernière à l'âge de 88 ans, Nicole Croisy n'était pas seulement une voix de la chanson française, elle était aussi comédienne et danseuse, une artiste complète qui aimait mélanger autant les disciplines que les genres. Retour sur 60 années de carrière avec Louis-Valentin Lopez.
Nicole Croisy, c'est avant tout une voix que les spectateurs découvrent en 66 dans Un homme et une femme de Claude Lelouch, avec une ritournelle intemporelle composée par Francis Lay. C'est le début d'une longue amitié et collaboration. Avec Lelouch, Nicole Croisy prêtera aussi sa voix au générique de Vivre pour vivre, Il y a des jours et des lunes, Itinéraire d'un enfant gâté. C'est dans les années 70 que la carrière solo de Nicole Croisy décolle, propulsée par une série de tubes romantiques. Parlez-moi de lui en 73, Une femme avec toi et Téléphone-moi en 75. « Mais il serait trop facile de réduire Nicole Croisi à un dabadabada ou à quelques tubes populaires. Elle était passionnée de théâtre, de danse, de comédie musicale. Elle avait débuté à 17 ans comme danseuse au sein du ballet de la Comédie Française. Premier rôle 3 ans plus tard dans L'apprenti fakir, une comédie musicale de Jean Marais. Membre de la troupe de Joséphine Baker, grande amatrice de jazz aussi. Une passion qu'elle avait nourrie aux États-Unis. En 92, Nicole Croisi avait réalisé son rêve, incarnant le rôle titre dans le musical Hello Dolly. Elle a consacré la fin de sa carrière à la comédie sur les planches des théâtres parisiens. « Je m'amuse comme une petite folle », disait-elle. Nicole Croisi, infatigable jusqu'au bout.
Voilà Nicole Croisi, donc, dont on a appris la disparition la nuit dernière à l'âge de 88 ans.
Quoi de mieux qu'un livre choc pour donner un coup d'accélérateur à sa campagne présidentielle ?
Le prix de nos mensonges, c'est le titre du 6e ouvrage publié par Édouard Philippe et c'est aussi probablement le plus caustique, en particulier vis-à-vis de celui qui avait pourtant fait de lui en 2017 le 3e plus jeune Premier ministre de la 5e République, Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas la première fois que l'actuel maire du Havre pointe ce qui, à ses yeux, ressemblerait presque à une mauvaise habitude, tout promettre sans jamais rien assumer, avec le cynisme d'un vieux routier, mais cette fois-ci, il durcit un peu plus encore le ton. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, le président de Horizon, donc, est candidat à la prochaine présidentielle, était l'invité de nos confrères de France Inter. Il n'a franchement pas mâché ses mots s'agissant du chef de l'État.
Il a des ministres au gouvernement, des parlementaires dans les deux chambres, mais la petite musique de « il ne se passe et il ne se passera plus rien jusqu'en 2027 », Édouard Philippe la joue depuis quelques mois déjà, il n'a pas changé d'avis.
La France, ben, elle fait des phrases, mais il n'y a pas de grands projets, il n'y a pas de grandes réformes, et personne ne pense une seconde dans ce pays, aujourd'hui, qu'on est en train de préparer l'avenir.
Mais ce n'est pas que depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, précise ce matin l'ancien Premier ministre. Il relie plutôt la fin de l'audace, hasard du calendrier, à son propre départ de Matignon.
L'élan réformateur de 2017 à 2020, il faut bien reconnaître qu'il s'est assez largement calmé. D'abord, probablement parce qu'il préparait sa réélection en 2022. Et ensuite, parce que en 2022, au moment de l'élection présidentielle, on peut pas dire que le programme ait été d'une clarté totale, que les engagements aient été d'une audace considérable.
Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, ne veut pas en apparaître comme l'héritier et tente de plus en plus de s'en démarquer. Mais ce n'est pas la seule explication de ce durcissement de ton, selon le politologue Jean Petaut.
Il essaye de ne pas perdre une partie de l'électorat LR qui peut être assez sensible aux thématiques de Bruno Retailleau. Ça aurait été sans doute préférable pour lui qu'il y ait un Wauquiez plus droitier. Donc la partie de l'électorat qui était d'ailleurs derrière Alain Juppé lors de la primaire de droite de 2016, il faut que Édouard Philippe la conserve.
C'est sans doute aussi dans cette logique que le candidat à la présidentielle ne ferme pas la porte non plus à un ticket avec Bruno Retailleau pour 2027, même si le risque, là, c'est de perdre une partie de ses soutiens chez les macronistes les moins à droite.
Merci Rosalie Lafarge. Comment justifier que 3 millions d'habitations soient identifiées aujourd'hui comme inoccupées, alors même que la demande pour se loger ne cesse de croître et que le nombre de sans-abri, par ailleurs, ne cesse lui aussi d'augmenter. Hier, plusieurs élus ont appelé le gouvernement à relancer le plan de l'État contre les logements vacants et à faire de cet enjeu une priorité nationale. Reste à savoir comment convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché. Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche émérite au laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société Territoire. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Wafia Kenich. Bonjour Wafia.
Bonjour Thomas. Bonjour madame. Et d'abord, on pourrait peut-être expliquer comment se fait-il qu'il y ait autant de logements inoccupés ou vacants, ou dits vacants. Pourquoi ce phénomène s'est tellement multiplié ces dernières années? On parle d'une multiplication par 4 depuis les années 50.
Alors d'abord, il y a une diversité de situations. Dans ces logements inoccupés, il y a des logements qui sont des résidences secondaires. Donc on ne peut pas dire qu'elles sont inoccupées. Environ un nombre conséquent sont donc des résidences secondaires partiellement occupées ou temporairement occupées. Sur les logements vacants, donc qui, eux, ne sont pas occupés, il y a aussi une diversité de situations. Il y a une vacance qui est normale entre deux locations. Il est normal qu'un logement soit vacant. C'est ce qu'on appelle, bon, la vacance frictionnelle. Pour les autres logements vacants, il y a là aussi une complexité de la vacance. Il y a un certain nombre de logements qui sont vacants parce qu'ils sont en travaux. Il y a des logements vacants qui le sont parce que les propriétaires, pour X raisons, ne souhaitent pas louer. Une partie des logements vacants sont des logements qui, quand bien même on les remobiliserait, ne sont pas en état pour être reloués, parce que supposant d'énormes travaux ou de très gros travaux, avec des propriétaires qui sont soit âgés, soit des propriétaires dont les ressources modestes ne leur permettent pas d'envisager de remettre sur le marché des logements après travaux. Donc il y a une diversité de situations, sans oublier la part des logements vacants qui le sont pour des raisons de succession, parce qu'on est sur des indivisions complexes ou parce qu'on ne retrouve pas les héritiers. Donc derrière ce terme-là d'inoccupé, il y a quand même une grande diversité de situations.
Mais la majorité de ces logements dits vacants, hein, qui peuvent être occupés partiellement, ce sont ces fameuses résidences secondaires, et il semble que ça bloque, ça a des conséquences sur le parcours résidentiel des Parisiens.
Alors, il y a un lien, évidemment. Le problème des Parisiens, ou d'une partie des Parisiens, c'est que quand ils souhaitent... Alors d'abord, il y a des problèmes d'accès au logement locatif pour un certain nombre de gens qui arrivent sur Paris et qui sont demandeurs de logements sociaux, ou pour des habitants de Paris qui souhaitent améliorer leurs conditions de logement et qui sont demandeurs de logements sociaux. Le problème, c'est que quand on veut passer de la location à l'accession, qui était jusque-là le parcours résidentiel normal. Alors, on était d'abord locataire, et puis quand on avait un ou deux enfants, on souhaitait améliorer ses conditions de logement, et en général, on partait vers l'accession à la propriété. Là, à Paris, un certain nombre de ces ménages, y compris de classe moyenne aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à la propriété compte tenu du coût du logement. Donc, quittent Paris. Et la difficulté de l'accès à la propriété aujourd'hui, pour des raisons à la fois de crédit, fait que les locataires restent locataires. Donc, ça veut dire que la rotation du parc locatif, il diminue. Donc, on a d'une part une rétraction de l'offre locative privée, et on a, à la fois dans le parc privé et dans le parc public, des locataires qui restent davantage dans leur logement parce qu'ils sont dans l'incapacité aujourd'hui d'accéder à la propriété de leur logement, à de grands logements en particulier.
Et une dernière question, les solutions qui sont évoquées, notamment par Yann Brossat, c'est notamment de donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales pour pouvoir utiliser ces logements vacants ou pas occupés toute l'année. Vous pensez que c'est une solution ?
Alors, je pense que là, il faut faire, on pourrait dire, feu de tout bois. L'idée qu'on donne davantage de pouvoir aux élus locaux, d'une part pour fixer des taxes éventuellement davantage dissuasives, et puis pour réquisitionner les logements vacants. Bon, on peut dire que ce sont des idées qui peuvent participer, effectivement, à remettre sur le marché certains de ces logements. En même temps, c'est pas la panacée. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait bien, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, quand on mobilise la réquisition, ça ne veut pas dire pour autant qu'on remet sur le marché des logements en état pour les raisons que j'ai évoquées. Donc c'est une petite partie de la solution à la crise du logement. L'enjeu principal, et en particulier dans les marchés tendus comme Paris, comme un certain nombre de grandes métropoles, c'est de produire du logement abordable, et en particulier de produire du logement social. Et de remettre en mouvement les parcours d'accession à la propriété pour permettre une rotation dans le parc locatif.
Merci beaucoup, madame.
On terminera par ces mots. Merci, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche émérite au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à vous, Wafia Kenich.
Midi passé de 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Quand Donald Trump double la mise dans sa partie de poker, Volker Menteur avec le reste du monde. Le président américain a multiplié par deux ce matin les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Seul le Royaume-Uni reste, lui, exempté de cette nouvelle hausse dans l'attente d'un nouvel arrangement commercial censé conforter plus d'un siècle de relations spéciales entre Washington et Londres. Mais pour tous les autres, la journée a donc commencé avec une nouvelle poussée de fièvre tarifaire, et c'est le cas en particulier pour l'Union européenne, accusée de ne pas négocier de bonne foi avec l'oncle Sam. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors, il se trouve qu'une rencontre était prévue ce matin même entre le représentant de la Maison Blanche au commerce et son homologue, le commissaire européen. Et forcément, Fabien, on imagine que la discussion était crispée.
Oui, malgré les sourires de façade affichés à l'issue de l'entretien, dans un message posté sur les réseaux sociaux, le commissaire européen Maroš Šefčovič se montre tout sourire, main dans la main avec son homologue américain. Au terme d'une discussion productive et constructive, peut-on lire, le négociateur européen, fin diplomate, se réjouissant d'avancer dans la bonne direction avec les Américains. Des propos censés faire baisser la pression d'un cran, alors que, vous le rappeliez, côté américain, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium passent à 50% aujourd'hui même. On se souvient qu'il y a moins de deux semaines, Donald Trump menaçait l'Europe de nouvelles surtaxes avant d'y renoncer. Il y a ensuite eu son revers judiciaire avec un tribunal américain qui a estimé qu'il n'était pas de son ressort de décréter des droits de douane dits réciproques contre le monde entier. De quoi donner du carburant aux négociateurs européens qui espèrent toujours, dans leur rapport de force, arracher un accord zéro droit de douane aux Américains.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. À peine une semaine après avoir quitté l'administration américaine dont il aura largement contribué à promouvoir les promesses populistes, Elon Musk a sorti la tronçonneuse hier pour s'en prendre, sans les citer, aux élus républicains du Congrès qui ont adopté le méga projet de loi budgétaire ardemment voulu par Donald Trump. Véritable clé de voûte pourtant du programme présidentiel et qualifié en l'occurrence d'abomination répugnante par l'homme le plus riche du monde et occasionnellement consommateur de kétamine sur ordonnance.
Mourir de faim ou risquer d'être tué.
Pour la troisième journée consécutive, la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza a tourné au carnage. Hier, au moins 27 Palestiniens sont morts, visés par l'armée israélienne, alors qu'ils s'amassaient près d'un des centres de distribution de nourriture. Cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu, projet qui devrait se heurter à un nouveau veto américain. Et puis ce matin, dans une tribune au journal Le Monde, l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert estime que le gouvernement de Benjamin Netanyahu mène une guerre à des fins personnelles et que les crimes commis comme les souffrances infligées aux Palestiniens sont à ce point contraires aux intérêts de l'État hébreu que ses dirigeants sont devenus, je cite, des ennemis intérieurs.
Quand le trompe-l'œil des négociations entre Moscou et Kiev augure surtout d'une intensification de la guerre.
Même si l'Ukraine multiplie depuis quelques jours les opérations spectaculaires en territoire russe, la pression de l'armée de l'envahisseur, plus nombreuse et mieux équipée, se vérifie chaque jour, en particulier dans le nord-est du pays. Selon le président Volodymyr Zelensky, près de 50 000 soldats ennemis seraient actuellement rassemblés près de la frontière en vue d'une possible nouvelle offensive. Et pourtant, c'est là, notamment à Soumy, que les Ukrainiennes continuent malgré tout de donner la vie, comme l'ont constaté dans une maternité de la région nos envoyés spéciaux Agathe Mahuet, Hélène Langlois et Yachar Fazilov. Reportage.
Cette femme qui arrive avec des nausées est vite installée en salle d'accouchement. Loubia a déjà 5 garçons. Le cœur que l'on entend battre est celui de sa première fille, qui va naître dans quelques heures.
Je tiendrai bientôt mon bébé dans les bras.
Une contraction efface son sourire. Elle dit que, bien sûr, la situation est difficile, d'autant que son mari est mort à la guerre il y a un an et demi. L'enfant à naître est celui de son nouveau compagnon.
Mon mari est-il mort en vain ? Non, il s'est battu pour notre Ukraine. Alors nous allons gagner.
La fille de Loubia sera le troisième bébé du jour à Soumy. Ce petit garçon est né il y a quelques heures. Et dans ce berceau, une petite fille, Diana. Le premier enfant de Svetlana est Pavlo. Le papa est barman et a assisté à l'accouchement. Voyez, les Ukrainiennes continuent de donner la vie, se réjouit la sage-femme, Anastasia.
Nous tenons bon, car nous sommes incassables.
Les naissances pourtant ont chuté à Soumy, plus que divisées par deux en 4 ans, car beaucoup de familles ont fui la région. Elle nous montre le sous-sol de la maternité où l'on accouche quand les bombes russes tombent sur Soumy. Anastasia, sage-femme, elle-même enceinte de 7 mois.
Mon mari et moi, juste après l'invasion, on pensait que ce serait impossible. Mais ensuite, on s'est dit, si c'est pas maintenant, c'est quand? Car la vie continue.
Beaucoup de nos gars sont morts, ajoute-t-elle. Alors il faut un baby-boom pour repeupler l'Ukraine. Son bébé à elle est prévu début août, et même si elle n'y croit pas vraiment, elle espère le voir naître dans un pays en paix.
Un reportage en Ukraine signé Agathe Mahuet. Exilés, condamnés, suicidés ou assassinés, les sorts funestes réservés jusque-là au président de la Corée du Sud plaident plutôt pour un cadeau empoisonné dès lors qu'il s'agit de diriger ce pays à l'histoire décidément tumultueuse. Lee Jae-myung fera-t-il exception? Le dirigeant de centre-gauche a été investi ce matin à la tête de l'État avec la tâche difficile de devoir non seulement penser les profondes divisions qui fracturent son pays, mais également jouer les équilibristes entre Washington, traditionnel garant de la sécurité de Séoul, Pékin, son premier partenaire commercial, et bien sûr son imprévisible voisin du Nord, Pyongyang. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, couvert avec un régime d'averse sur la majeure partie du territoire, à l'exception des régions proches de la Manche. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.